Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Comme un parfum de 4ème République en pleine 5ème. Nous sommes quelques heures après le second tour des élections législatives et rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Claque aller-retour pour la majorité, une NUPES qui performe mais pas autant qu'elle l'attendait, des Républicains à la peine et un Rassemblement National qui s'invite sans prévenir avec près de 90 députés, une majorité très relative pour les soutiens du président et le Palais Bourbon qui se transforme d'un coup en agence de voyage pour l'inconnu. Ça mérite bien un débrief de la situation. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti! Situation inédite sous la 5ème République, la photographie offerte par le deuxième tour des législatives apporte plus de questions que de réponses. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est-il déjà mort-né? Est-ce encore possible de faire voter des textes avec une assemblée aussi polarisée? La France va-t-elle vivre 5 ans d'immobilisme? Libellisé, épisode 22, après les législatives, comment gouverner sans dissoudre l'Assemblée nationale? Et on va en parler justement avec des gens qui ont très peu dormi, hein, puisqu'on enregistre ce podcast quelques heures après eh bien, les résultats du second tour des législatives, à savoir eh bien, Lilian Alemania, salut.
Salut.
Alors toi, tu es chef du service politique de Libération et Jonathan Boucher-Petersen, salut.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint du service politique. Alors je le disais, nous sommes donc à quelques heures après le vote du second tour. Est-ce que franchement, on peut dire là que le pays est bloqué?
On le verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tout dépend de la majorité qui va ressortir de cette assemblée. Alors, on le sait maintenant, le chef de l'État et le gouvernement n'ont pas de majorité absolue, donc ils doivent aller chercher une majorité. Et aujourd'hui, la seule majorité possible est avec les Républicains, puisque le nombre de députés de la majorité sous la bannière Ensemble et celle des Républicains fait la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés.
Alors moi, je pense que le pays n'est pas du tout bloqué, hein, que le macronisme est bloqué, que le macronisme est dans un temps d'arrêt, mais on ne peut pas dire qu'il était absolument dynamique, vivant et plein d'allant depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Donc là, évidemment que ça vient créer une configuration institutionnelle particulière, mais on n'est pas non plus dans la cohabitation. Et on se souvient que le pays n'était pas bloqué quand il était en cohabitation, il était simplement avec des pouvoirs qui étaient équilibrés. Donc là, il y a un moment un peu de sidération pour le macronisme qui n'a jamais été habitué à être entravé ou à devoir discuter. Donc là, il y a 24, 48 heures, une semaine. Enfin, évidemment que le temps post-élection, il est plutôt dans un moment de blocage, le temps qu'il réatterrisse. Mais après, dans le pays ne se retrouve pas dans la situation de la Belgique sans gouvernement pendant des mois et des mois.
Il y a une question de clarification maintenant. On a une élection, on a été habitué à voir un bipartisme, c'est-à-dire une formation majoritaire, une formation minoritaire. Sur le précédent quinquennat, une formation archi-majoritaire. Voilà, là, on va devoir composer comme dans d'autres démocraties parlementaires au sein d'une assemblée.
Tu parlais tout à l'heure, Lilian, de compromis peut-être éventuellement avec les Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, ces Républicains, il faudrait qu'ils soient tous derrière Emmanuel Macron? Or, on voit que ça paraît impossible qu'un groupe entier soit derrière Emmanuel Macron, notamment quand il est en opposition.
Alors juste parce que j'ai les chiffres sous les yeux, histoire de ne pas dire de bêtises, donc il y a 245 députés du groupe Ensemble, sachant que la majorité absolue à l'Assemblée est à 289. Donc même si on a peu dormi, je pense que ça fait 44 députés dont ils ont besoin. Et il y en a 74 dans le groupe LR-UDI. Donc de fait, ils n'ont pas besoin non plus d'un accord qui à chaque fois viendrait de façon systématique voir les 74 députés LR voter pour eux. Ça, de toute façon, le parti ne le voudra pas. Christian Jacob ou un certain nombre de caciques du parti qui sont plutôt sur une ligne identitaire, une ligne de dire LR a une existence propre et ne peut pas se fondre dans le macronisme, je ne pense pas qu'ils arriveront à trouver un accord. En revanche, qu'ils arrivent à trouver des majorités de circonstances sur des textes, et c'est en ça que ça peut être quelque chose d'un peu bénéfique. Donc évidemment que nous, à Libé, on préférerait que le macronisme soit obligé de composer avec la gauche, parce que ça rendrait peut-être un peu plus Macron dans sa promesse de centre-gauche, et que là, clairement, le fait que ce soit les députés de droite qui aient, entre guillemets, le sort de la majorité entre leurs mains, ça va plutôt dériver vers la droite, sur la réforme des retraites, enfin sur plein de sujets qui vont arriver bientôt. Mais non, il y a simplement un approche apprentissage de du pluralisme qui va peut-être se faire dans la souffrance chez LREM, mais en soi, c'est pas, il y a rien de dramatique. Il y a simplement quelque chose qui n'est pas arrivé et qu'on dénonçait, c'est-à-dire l'automaticité d'une majorité écrasante qui fait que le président n'a plus jamais à se soucier de ce que l'Assemblée va faire puisque son groupe vote le doigt sur la couture. Ça, c'en est fini. C'est la fin du Jupiter vertical, dominant et un peu autiste. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, même s'il y a une semaine de formation.
Est-ce qu'il y a aussi finalement la chance dans cette histoire d'Emmanuel Macron, c'est que le Rassemblement national ne s'associera jamais à la NUPES. Donc finalement, il ne pourra pas y avoir d'émotion entre les deux groupes. Est-ce que c'est pas sa chance aussi ?
C'est pas une question de chance. Le Rassemblement national, lui a évité, en tout cas, qu'il y ait plus de députés NUPES, même si le Rassemblement national a aussi gagné beaucoup de duels face à Ensemble. Donc on l'a vu hier soir, c'est la fin du Front Républicain, le barrage a totalement explosé, puisque les électeurs d'un côté ne viennent pas sauver les adversaires contre l'extrême droite. Maintenant, il va falloir qu'il aille piocher, je reviens à ce que disait Jonathan, vers LR. La difficulté, c'est que la plupart des députés LR ont été élus contre des candidats d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué avec dans l'opposition à Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que le président du parti, Christian Jacob, hier, a martelé que LR était dans l'opposition, dans l'opposition certes constructive, mais dans l'opposition. Donc, si accord au coup par coup il doit y avoir, il risque d'y avoir des enchères qui vont monter les prochains jours. Et pour avoir discuté avec quelques ministres avant le second tour, la petite musique était on n'ira pas faire des accords au coup par coup parce que sinon on va être trop dépendant d'eux. C'est on met un accord de gouvernement sur la table, sinon ça pourra pas tenir.
Et ça, ils vont avoir du mal parce que ceux qui défendaient cette optique-là, il y en avait un, hein, LR. Ils ont assez souvent été battus au premier tour, ou alors ce sont des gens qui ne sont pas députés, que ce soit un Jean-François Copé, franc-tireur de la droite, mais qui globalement n'a pas vraiment de troupe aujourd'hui, que ce soit un certain nombre de présidents d'exécutifs régionaux notamment qui sont sur cette ligne-là. Donc après, voilà, il faudra aussi voir qu'est-ce que pense le peuple de droite d'une certaine manière. Souvent, les partis, de plus en plus aujourd'hui, se retrouvent à être un petit peu à la remorque aussi de leurs sympathisants. Quand la gauche a fini par s'unir, ça faisait un moment que les sympathisants de gauche disaient « Unissez-vous, c'est ça l'avenir ». Chacun avait des très bons arguments pour dire « Non, non, il ne faut pas, non, non, on va se diluer, non, non, on va se perdre ». Donc voilà, entre la proclamation, j'allais dire, du patron administratif du parti qui cherche à défendre sa boutique, les tentations j'allais dire, de repli de députés qui se disent mon étiquette LR, j'y tiens, je la garde. Ça est la réalité de la dynamique politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas dans ce groupe LR une trentaine ou une quarantaine qui diront vous êtes gentil, moi, ce n'est pas l'étiquette LR qui m'a sauvé, c'est mon implantation. Et qui, sur un certain nombre de sujets, iront apporter leur voix. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron, il aura du mal à naviguer, comme ça pouvait être par le passé dans des majorités relatives, de dire une fois majorité de circonstances à droite, une fois majorité de circonstances à gauche, parce qu'on va sûrement y venir. Mais un des effets, j'allais dire, de cette nouvelle photographie de l'Assemblée, c'est qu'une NUP qui aurait été encore plus dominante sans le RN de l'autre côté et avec l'idée que les insoumis pouvaient exister par eux-mêmes comme principal groupe d'opposition non contestable, ça c'est un peu battu en brèche. Et l'obligation de la NUP, c'est de faire bloc ensemble, c'est de tenir ensemble, et c'est ça qui leur donne leur force. Donc d'une certaine manière, le résultat de dimanche soir, il vient solidifier le bloc de gauche, il vient questionner le groupe LR, les uns et les autres constatant qu'une des grosses données du scrutin, c'est quand même les 90 députés RN.
Voilà, alors ça, on va en parler dans un instant, mais juste avant, il y a ce mot qui est arrivé dès 20h05, je pense, l'annonce du scrutin, c'est le mot dissolution. Forcément, on le sait qu'Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État, peut le faire, je crois que c'est au bout de 20 jours, voilà, 40 jours avant la dissolution. Est-ce que ça serait de l'ordre du possible ? Alors, je ne vais pas vous dire, vous n'êtes pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais est-ce que ça pourrait résoudre les choses ou pire encore, les aggraver ?
Sur le papier, constitutionnellement, c'est a priori possible. Il y a un débat entre les constitutionnalistes, mais a priori, de ce qu'on entend ce matin, le consensus est plutôt sur, oui, on a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale après des législatives. On n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an quand c'est des élections qui sont issus d'une première dissolution. En revanche, oui, politiquement, ça serait très dangereux pour lui. Les exemples par le passé de dissolution, ils sont très heureux pour Charles de Gaulle en 68, ils sont très malheureux pour Jacques Chirac en 97. Et vouloir régler, j'allais dire de force, c'est-à-dire dire aux électeurs non mais vous avez mal voté, vous m'avez mal compris, il faut vraiment voter pour moi maintenant, c'est prendre le risque d'une claque supplémentaire. Et là, dans ce cas-là, on fait comment? Si les oppositions, qu'elles soient de gauche ou d'extrême droite, augmentent, Emmanuel Macron peut se retrouver avec une majorité encore plus étriquée.
Parce que l'arme de la dissolution pour un président de la République, au-delà de ce qu'on a connu, c'est de dire j'ai ma légitimité issue du scrutin présidentiel, l'Assemblée, d'une certaine manière, devient trop compliquée à gérer, mais parfois sa propre majorité, de dire il y a une figure qui émerge comme chef de la majorité parlementaire et qui devient un problème pour le président, et il prend les Français à témoin pour dire le lien de confiance qu'il y a entre nous, vous allez le réaffirmer de façon beaucoup plus claire pour me désentraver. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans une élection à la présidentielle qui s'est faite dans un contexte de barrage et donc pas dans une adhésion massive et populaire à Emmanuel Macron, et qui trouve sa symétrie dans l'Assemblée nationale où, encore une fois, la confiance des Français en Emmanuel Macron, elle s'est montrée très atrophiée. On reste dans une logique qui est quand même très différente de ce qu'on a connu par le passé. On est dans le quinquennat, donc avec cette idée que les législatives doivent confirmer le scrutin présidentiel. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire scrutin présidentiel étriqué, dit majorité étriquée à la fin. Donc Emmanuel Macron, il a eu le fantasme de dire, bah non, comme à chaque fois, il nous explique qu'il appelle à faire barrage contre l'extrême droite et il en fait une validation de son programme de façon totale et entière. Donc la logique dans sa tête à lui, c'était dans ces cas-là, les Français vont me donner la majorité absolue. La réalité, c'est que non, la défiance qui s'est exprimée avec cette espèce d'élection par défaut, on la voit dans les urnes hier soir.
Et la différence avec 2017, c'est que là, l'électorat de Marine Le Pen est allé voter au premier et au second tour. Et l'électorat de gauche qui avait fait barrage d'habitude à l'extrême droite, qui a fait barrage en 2022 pour ce qui a profité à Emmanuel Macron, n'est pas venu faire barrage au second tour face à l'extrême droite. Donc on se retrouve avec cette situation où justement un vote barrage du second tour de l'élection présidentielle ne se retrouve plus dans les législatives et donc il n'y a plus de majorité.
Et en même temps, vous dites vote barrage, mais il est vrai que Emmanuel Macron, tout de même, au premier tour de la présidentielle, fait un meilleur score qu'en 2017. C'est ça qui paraît étonnant, c'est que les Français votent ça il y a un mois au premier tour et un mois après, ils lui mettent un tacle.
Oui, mais contexte de vote drapeau aussi, on était dans un contexte où la tension avec l'Ukraine était beaucoup plus évidente, où le statut du sortant était très valorisé aussi à ce moment-là, sans dire que la situation ukrainienne est réglée, loin de là, mais ce crédit qui était apporté à Emmanuel Macron, c'est quand même clairement distendu. Et après, si on regarde le rapport de force en tant que tel, il a plus que en proportion de l'Assemblée nationale. Donc après, tout ça est compliqué, parce que tout se compare pas, mais entre son score du premier tour de la présidentielle qui est en dessous des 30%, aujourd'hui il a 245 députés sur les 577. Donc de fait, il y a quand même une prime au pouvoir sortant. Simplement, ça se fait dans un contexte où on s'y attendait peut-être pas, mais il y a plus de place que dans un premier tour de présidentielle pour que les autres viennent s'exprimer. Il y a eu une sorte de rééquilibrage des pouvoirs. C'était ce qui était très présent sans aller jusqu'à l'envie de cohabitation, mais l'idée que au RN, c'était on ne donne pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. À gauche, avec cette idée de troisième tour et de dire il y a quelque chose, on peut pas se permettre de donner, encore une fois, l'expression n'était pas la même, mais l'absolu pouvoir à Emmanuel Macron de faire exactement ce qu'il veut. Et il y avait une défiance quand même de ce pouvoir absolument vertical qui finissait par plus tellement s'encombrer de pas grand chose, donc de la société, donc de beaucoup de groupes d'intérêt, quoi.
Et au premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu aussi un vote utile à droite, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui votaient LR d'habitude sont allés aussi voter Emmanuel Macron par crainte d'un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et cet électorat-là se retrouve, en tout cas à certains endroits, localement, sur certaines figures locales, ce qui était un des paris de LR et qui a plutôt fonctionné, puisque ils perdent un bon tiers de leur député de la dernière fois, mais ils sont à plus de 70 députés, là où on les attendait plutôt autour de 50-60.
Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes assez optimiste pour l'avenir. Je vois pourtant tout le monde parle de foutoir intégral en prenant exemple sur les lois où les insoumis, justement quand ils étaient 15 ou 17 lors de la précédente assemblée, déjà faisaient eux-mêmes une politique d'entrave. Ils disaient, on dépose des amendements. Là, ils se disent, déjà à 70 dans leur propre groupe, ça va être un foutoir mélangé à la gauche plus nombreuse, plus l'extrême droite. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle de, finalement, assemblée non gouvernable?
Oui, mais encore une fois, ça remet aussi un petit peu l'église au milieu du village, ou en tout cas, ça redonne du sens à chacune des institutions. Le rôle de l'Assemblée n'est pas d'avaliser le doigt sur la couture, la volonté du président de la République. Ça, c'est quelque chose auquel on s'est habitué parce que c'était ce que donnait le résultat des urnes. Mais c'est d'une certaine manière une façon de dévier par rapport à l'équilibre des pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, et l'idée, c'est pas que le pouvoir législatif soit juste soumis au pouvoir exécutif. Donc ça, que ça oblige, l'Élysée à repenser le rythme des réformes, à repenser la façon de, non pas concerter, mais trouver des compromis, trouver des textes et des orientations qui rassemblent, ça c'est un exercice qui est vertueux. Après, que ça se fasse de façon moins fluide que quand, mais en même temps, on était les premiers, et les Français aussi, à être navrés de voir que quand on disait que l'Assemblée était une chambre d'enregistrement, je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est ou un défaut plus grave que d'être le foutoir. Le foutoir, parfois, c'est aussi le début de la vie, et si on veut redonner un peu de vigueur, j'allais dire, à l'Assemblée, peut-être qu'il faut qu'elle réfléchisse aussi à ce qu'est son rôle de contrôle du pouvoir, de contre-pouvoir au sens premier du terme. Voilà, il y a un apprentissage à faire, donc peut-être que ça va être un peu bordélique, mais encore une fois, c'est pas grave s'il y a du débat à l'Assemblée, c'est pas grave si le président de la République se trouve parfois ralenti dans sa course effrénée à la réforme par un organe qui n'est pas absolument illégitime, qui s'appelle le Parlement.
On a une schizophrénie en France. On est à la fois de tradition royaliste et bonapartiste où on a quelqu'un en haut de l'État qui décide pour tout le monde, et donc c'est direct, ça va vite, c'est pas le foutoir, et en même temps la tradition parlementariste issue de la Révolution française où on a une assemblée qui débat, qui décide, et c'est ces rapports de force issus du peuple qui font cela. La Ve République est plutôt de tradition bonapartiste, c'est Charles de Gaulle qui l'a mise en place en opposition à la IVe République. Là, on entre avec cette assemblée, on verra ce que ça donne, mais dans une ère un peu plus moderne, on va voir si tous les dirigeants, notamment autour d'Emmanuel Macron, qui nous vantaient le parlementarisme, le modem de François Bayrou qui voulait la proportionnelle, voilà, là on a le résultat qu'aurait pu avoir un peu une proportionnelle, ou en tout cas un scrutin mixte comme on peut l'avoir en Allemagne. Est-ce qu'on est capable de discuter, de faire des compromis, d'avancer sur un programme qui soit différent du programme qui a été mis en œuvre par le parti qui a gagné l'élection présidentielle?
Et Emmanuel Macron, par exemple, quand il était ministre de l'économie, qu'il a remplacé Arnaud Montebourg, il a fait justement ce travail quand il était en train de faire passer la loi Macron, ce travail avec le Parlement, de dire je prends les gens groupe par groupe en essayant d'expliquer en quoi, dans mon texte, il y a quelque chose qui peut les rassembler. Ce travail d'aller parler à la droite, d'aller parler à la gauche, de trouver en fait une espèce de voie médiane qui n'est pas, une politique Canada Dry, mais qui est une politique qui vient justement tenir compte de ce qu'est la diversité du champ politique. On ne peut pas dire qu'il y a une France qui soit macronienne, 100% macronienne, absolument macronienne et seulement macronienne. Il n'y a aucune raison que la politique qui se met en place dans le pays soit exclusivement macronienne, 100% macronienne, décidée entre Alexis Kohler et Emmanuel Macron.
Une chose, alors forcément, ce qui a marqué tout le monde, c'est 90, enfin 89 députés du Rassemblement national. Juste au départ, une question, vous-même qui suivez l'actualité au quotidien, minute par minute, pourquoi on ne l'a pas vu venir en fait?
On l'a vu venir, on a fait 4 pages dessus, on ne l'a pas vu venir aussi haut parce qu'on était plus sur 60 députés. Eux-mêmes ont été très surpris et ce qui s'est joué, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation du camp de l'extrême droite. Il y a eu un vrai vote sanction aussi contre Emmanuel Macron dans des coins où des gens qui n'étaient pas allés voter au premier tour, voire qui avaient voté peut-être pour une opposition de gauche, qui derrière sont allés voter Rassemblement National parce qu'ils voulaient sanctionner le pouvoir en place, et parce que le Front Républicain a explosé, parce que aujourd'hui, à force de, et là Emmanuel Macron en porte une responsabilité, c'est-à-dire que quand dans l'entre-deux-tours on explique que ceux qui votent pour la France Insoumise, ceux qui votent pour la NUPES, c'est la même chose que le Rassemblement National, à la fin les gens ils restent à la maison, les gens de gauche restent à la maison, ils ne vont pas voter pour des gens qui disent qu'ils sont les extrêmes. Donc on peut pas d'un côté dire On a les mêmes valeurs contre l'extrême droite dans l'entre-deux-tours de la présidentielle pour que les électeurs de gauche viennent sauver Emmanuel Macron, et de l'autre, quand ça devient des adversaires, expliquer que c'est le mal et qu'ils sont la même chose que l'extrême droite. Les gens, ils sont pas bêtes, ils le voient, et à la fin, ils ne viennent plus faire barrage contre l'extrême droite. Et donc, eh ben, ça donne ce qu'on a connu hier, avec des triangulaires, une ou deux triangulaires où c'est l'extrême droite qui passe devant, des duels, que ce soit face à la gauche ou que ce soit face à les candidats de la majorité, qui passent à 200, 300, 400 voix près. Et on a 80 députés RN.
Parce que c'est pas tant une vague bleu marine d'électeurs qui tout d'un coup auraient déferlé. Hein. On dit toujours que ces élections, elles se jouent dans une logique d'abstention ou de mobilisation différentielle. Et là, il y a clairement un des deux camps qui a été au rendez-vous pour défendre ses candidats avec plus de duels que d'habitude. J'allais dire, en temps normal, ou en tout cas jusque-là, il y avait suffisamment de mobilisation du camp républicain dans le camp d'en face pour faire barrage, et on serait arrivé sur des étiages beaucoup plus bas. Mais là, quand on a la conjonction d'un camp qui est mobilisé et, j'allais dire, son opposition habituelle qui reste à la maison parce qu'elle a été stigmatisée, parce qu'elle a été mise à l'index par les erreurs stratégiques d'Emmanuel Macron, bah ça se paye cash avec effectivement un certain nombre de circonscriptions où ça se joue à 50,5, 50,4, 50,5. Mis bout à bout, toutes les pièces côté RN sont tombées du côté de Marine Le Pen et elle en tire profit.
Pour vous, le Rassemblement National est-il capable de faire un vrai travail d'opposition ?
Effectivement, à 90, et ça on n'a pas encore eu le temps de complètement, c'est un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on fera demain, mais d'aller voir un peu le casting ou de cette faune qui n'était pas forcément attendue, mais de dire qu'il y aura une quinzaine ou une vingtaine de députés qui sont capables de s'intégrer dans le jeu parlementaire, qui travaillent suffisamment pour avoir des choses à dire, ça je pense qu'il n'y a pas de doute, hein. C'est vraiment la différence entre le RN de Marine Le Pen et le FN de Jean-Marie Le Pen, c'est moins un usage tribunicien et un peu plus un usage de respectabilité, de normalisation, de professionnalisation, ça c'est plutôt la culture Bruno Maigret en gros si on se réfère à ce qu'a pu être l'extrême droite, ça existe et ça existe depuis longtemps dans le marinisme. Après c'est la capacité pour, au-delà du côté tsunami, au-delà du côté choc qu'il ne faut surtout pas minimiser du nombre, il n'empêche que même à 90 à l'Assemblée nationale, le RN ça va rester une force politique isolée. C'est-à-dire personne ne va venir toper pour apporter le surplus de troupes qui permettrait de peser. Ce qu'ils ont comme, et c'est pour ça que l'enjeu des 60 était quand même, 60 députés étaient assez importants en interne, et même ça c'était un objectif qu'eux-mêmes n'étaient pas complètement sûrs de pouvoir atteindre, c'est le travail de saisine du Conseil constitutionnel par exemple, qui là pour le coup se joue sur il faut avoir 60 députés pour pouvoir le faire. Donc ça, il y a clairement un changement de statut. Après, ça ne fait pas non plus du RN une force de premier plan dans la vie quotidienne de l'Assemblée nationale. Ça va lui donner une tribune qui est plus importante, ça va peut-être lui donner un certain nombre de fonctions qui sont plus éminentes. En revanche, voilà, leur stratégie à 50 ou à 90, d'une certaine manière, ça ne va pas être si différent que ça. Leur enjeu, c'est d'identifier des gens sur des thématiques, c'est de faire exister des visages aussi au-delà de celui de Marine Le Pen ou de Louis Alliot, de Jordan Bardella, sachant que ni Louis Alliot ni Jordan Bardella n'étaient candidats cette fois-ci. Donc voilà, il y a aussi ce travail de franchir un palier en plus dans la construction d'une force dont ils considèrent qu'elle est toujours une force de gouvernement en puissance.
Et puis on va terminer bien alors donc par la NUP, hein, donc aussi qui était la surprise, enfin voilà, qui aujourd'hui est la première force hein, d'opposition à Ensemble, donc aussi La République En Marche. Alors Fabien Roussel du Parti communiste dit aujourd'hui la NUP n'a pas réussi à passer le plafond de verre. Ça veut dire qu'il y a une petite déception quand même hier par rapport au nombre d'élus.
Il y a une petite déception, oui, et en même temps il passe quand même entre 130 et 145 élus, ce qui est quand même énorme par rapport à ce qu'il pesait à l'époque. Enfin, quand même rappeler que le PS était une trentaine de députés, la France Insoumise 17 et le Parti Communiste 10 députés. Ils n'avaient pu constituer un groupe que parce qu'ils avaient l'apport des élus outre-mer. Donc c'est quand même une performance. Ils auraient pu espérer mieux et il faudra tirer un peu les conséquences de pourquoi ils ont manqué peut-être une marche entre le premier et le second tour. Mais maintenant c'est un acquis. Cette union-là, ils ont fait la démonstration que unis on pouvait l'emporter. On pouvait en tout cas là devenir la première force d'opposition à Emmanuel Macron, obliger Emmanuel Macron aussi à clarifier sa politique. Est-ce qu'on se tourne vers la gauche, vers le centre-gauche, ou est-ce qu'on se tourne vers la droite, et parce que le programme économique et social est beaucoup plus de droite que de gauche, donc créer une espèce de nouvelle alternance, c'est-à-dire qu'on aura un parti, une formation de centre-droit et une gauche d'opposition qui demain peut prétendre à être majoritaire dans le pays. Donc c'est un premier pas très important. Maintenant, il faudra voir comment tout ça se met en musique à l'Assemblée nationale.
Après, il y a évidemment des défis, parce que là, ce qu'on se disait au début, c'est que la situation politique pousse la NUP à faire bloc. On est moins dans l'idée que dès le lendemain des élections, chacun existe par lui-même, avec son groupe. Il y a l'idée qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux, d'une certaine manière, pour ne pas avoir besoin de peser tous ensemble. Après, le prochain scrutin qui s'annonce, c'est pas tout de suite, mais c'est les élections européennes. Et c'est vrai qu'aux élections européennes, c'est typiquement le genre de scrutin où on imagine mal avoir une liste commune des socialistes, des écolos et des insoumis. Donc ce sera un défi. Après, il peut y avoir tout à fait une dichotomie entre réalité législative, rendez-vous d'élections européennes où ça ne sert à rien de cacher la poussière sous le tapis. Ils ont toujours dit que là-dessus, ça faisait partie des sujets sur lesquels il pouvait y avoir des nuances. Donc se compter dans ce type de scrutin, ça peut avoir sa légitimité. Voilà, encore une fois, ce qu'on disait d'Emmanuel Macron, qui va devoir apprendre le pluralisme à l'Assemblée nationale, c'est aussi un apprentissage pour la gauche, ou un réapprentissage plutôt pour la gauche, d'apprendre à être unis, à fonctionner de façon un peu cohérente, surtout que ça s'est fait de façon naturelle et presque évidente quand le PS était la force hégémonique, où il y avait vraiment le PS et le reste du monde. Là aujourd'hui, il y a des forces politiques qui sont non pas de poids égal, mais entre le fait que LFI est clairement dominant à l'Assemblée nationale, mais que dans les régions et dans les départements, ou dans les mairies, c'est quand même beaucoup plus les autres composantes de la NUP qui ont des positions. Voilà, tout ça fait une forme d'équilibre des pouvoirs. Il ne faut pas que ça se transforme en équilibre de la terreur, quoi.
Une dernière chose, une question plus personnelle. Vous-même, comment vous voyez en tant que journaliste politique la période qui s'ouvre ? Elle est exaltante, elle est déprimante, ou au contraire, elle est plus excitante que même les 5 dernières années qu'on a pu vivre ?
Alors là, mais c'est peut-être l'effet loupe de la longue soirée d'hier soir et du fait qu'on a recommencé tôt, j'aurais tendance à dire fatigante. Mais qui dit fatigante dit aussi intéressante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée que la politique, c'est simplement la répétition de ce qu'on a déjà connu, ça s'est battu en brèche. L'idée que rien n'est jamais vraiment écrit avant une élection, ça c'est toujours enthousiasmant. Là, comme on disait, c'est que dans toutes les sphères, on est dans des moments de découverte, de défi, ou d'une certaine manière de redéfinition de ce qu'est le rôle du Parlement, l'arrivée du RN, la gauche unie, une majorité sous contrainte. Voilà, tout ça, ça ouvre autant de sujets d'événements que de pas de sujets de nuit blanche, faut pas déconner. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut effacer un peu le logiciel automatique et dire il y a une réalité qui s'écrit sous nos yeux, oui, ça, c'est plutôt enthousiasmant.
Personnellement, elle est effrayante quand on voit les scores du Rassemblement national et le fait qu'ils aient envoyé 90 députés à l'Assemblée. Ça c'est personnel. Au niveau professionnel, en tant que journaliste politique, c'est passionnant. C'est passionnant de voir enfin, moi qui ai suivi l'Allemagne et le système parlementaire là-bas, de voir que peut-être, on verra dans les prochaines semaines, commence à se matérialiser un régime parlementaire sous un régime semi-présidentiel. Donc il y a quelque chose de nouveau. Des discussions. L'Assemblée redevient un lieu vraiment législatif, un lieu de pouvoir qui ne l'était plus depuis des nombreuses années.
Merci Lilian, merci Jonathan, Libellisé. Eh bien, il est encore temps de s'abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors un mot tout de même pour vous dire que la semaine prochaine, eh bien, ce sera le dernier épisode de Libellisé. Et oui, alors, on tenait surtout à vous remercier de nous avoir écoutés. Et merci pour vos messages. C'était un vrai plaisir, en tout cas, ce rendez-vous hebdomadaire. Alors pour le dernier Libellisé, autant vous dire que ce sera un épisode assez grandiose, car nous allons revenir sur cette longue période électorale des présidentielles aux législatives avec ceux qui vous l'ont raconté et qui ont arpenté les coulisses jour après jour pour Libération. On évoquera même la présence de Douglas le chien, et si, souvenez-vous. Alors on a hâte de vous le faire écouter, et si vous aussi vous voulez y participer et nous donner votre sentiment sur ces 6 mois qui ont changé la face de la vie politique française, eh bien on vous attend sur libellisé@libération.fr. N'hésitez pas à nous laisser messages et notes vocales. Donc nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.